Bonjour. Soyons sympas avec nos émotions, même celles qui sont désagréables. Accueillons-les, offrons-leur un café et discutons avec elles. Pour vivre et travailler un peu plus sereinement, l'hospitalité fonctionne toujours mieux que l'hostilité avec ses gardiennes de nos bien-être. Voici comment les inviter à notre table et nous réconcilier définitivement avec elles en 10 étapes. Et pour commencer, l'émotion, c'est une mise en mouvement vers du mieux. Dans nos vies professionnelles, les émotions négatives ou pénibles ordinaires, liées à des insatisfactions en termes de relations, d'organisation, de management, de tâches, etc., méritent de ne pas être ignorées ou rejetées, de ne pas s'échiner à les supprimer, juste pour se débarrasser de leurs effets désagréables, et ce, pour deux raisons. Tout d'abord parce que une vie sans émotion, ça n'est pas possible. Et j'imagine que même après 25 ans de méditation 6 heures par jour, il arrive encore qu'on ait ces petits agacements, ces trémolos d'inquiétude ou des restes de sensibilité à la tristesse. Deuxièmement, parce qu'elles ne sont pas les ennemis qu'on croit, si pénibles soient-elles. Elles sont plutôt les poteaux indicateurs des actions à mener pour revenir dans le bien-être. Elles nécessitent donc avant tout d'exploiter la mise en mouvement qu'elles procurent pour construire davantage de bien-être ou pour y revenir. Ce qui aura un paquet de vertus et de bienfaits collatéraux, évidemment, comme améliorer l'humeur et l'estime de soi, améliorer le sentiment de satisfaction, le sentiment de pouvoir agir et pas seulement de subir, de revenir à des conditions de travail plus humaines qui favorisent le plaisir et le travail bien fait, mais aussi d'améliorer les relations. Pour peu qu'on les accepte, pardon, qu'on les écoute, qu'on en décode les messages, les émotions, ce sont les gardiennes de notre bien-être et les moteurs de nos actions. Alors pour commencer, il va s'agir d'accueillir l'émotion. Comme nous avons du mal à les considérer comme des alliés, comme nous sommes facilement submergés par les réactions qu'elles entraînent, nous préférons souvent rejeter nos émotions que de les accueillir. C'est une erreur qui les entretient et qui les renforce. Car s'agacer de réactions qui sont l'indicateur que quelque chose ne va pas et chercher à l'ignorer, c'est à peu près aussi utile que de mettre le doigt sur un pneu crevé. Ça n'arrête rien et tôt ou tard, il faudra bien changer le pneu. Et pour aller plus loin, je vous propose d'aller lire l'article Accueillir ses émotions avec bienveillance que je vous ai mis en lien dans la retranscription de ce podcast. Deuxièmement, la deuxième étape pour se réconcilier avec les émotions va consister à diminuer l'intensité de l'émotion en observant le ressenti. Et en décrivant précisément ce qui se passe dans notre corps et où, ce qui se passe dans notre tête, bref, toutes les conséquences physiques, physiologiques et cognitives de l'émotion. Parce que comme tout signal d'alarme, l'émotion a besoin d'attention. Et que dès lors que nous lui en accordons, elle va se réduire considérablement, nous permettant de réfléchir plus aisément à une réponse concrète à donner à la situation qui nous a dérangés. Et pour comprendre comment observer le ressenti, je vous propose un lien vers un extrait, pardon, un joli extrait d'ailleurs, d'une BD qui était rapportée par Kaizen et qui est une illustration tout à fait jolie de la description du ressenti de l'émotion. La troisième étape va consister à donner un nom à l'émotion. Il est évidemment plus facile de savoir comment s'y prendre avec un animal sauvage si on sait que c'est un lapin ou un mammouth. Et bien, c'est exactement pareil avec les émotions. Malheureusement, le terme stress est devenu un fourre-tout facile qui nous déconnecte de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et nous avons besoin de distinguer le stress de l'émotion pour pouvoir faire sens de celle-ci et la comprendre. Sinon, la plupart du temps, nos émotions ressemblent à un gloubi-boulga de réactions, de ressentis et de pensées, tout ça mélangé. Et pour ça, je vous invite à aller consulter l'article de l'importance de la distinction entre stress et émotion, que je vous ai aussi mis en lien dans la retranscription. Et comme nous manquons de mots pour décrire nos émotions, rappelons d'abord, pour simplifier, qu'on gardera pour la suite du travail sur les émotions trois chapeaux sémantiques, génériques, sous lesquels il existe 1 000 nuances possibles. On gardera la peur, la colère et la tristesse. Et pour vous aider à mettre des mots plus facilement sur vos émotions, je vous propose un article, La météo intérieure, qui va permettre de faciliter les choix de mots à remettre sur vos émotions. Et ici, je vous propose de faire une pause. Je fais une pause parce qu'en général, les invitations à nous préoccuper de nos émotions s'arrêtent là. Accueillir l'émotion, lui donner un nom, point. Remonter à sa source, comprendre à quoi elle sert, pourquoi elle est là, est-ce qu'on peut en faire, et ce qu'on peut faire de ses bonnes raisons pour lesquelles elle est là, ça fait déjà courir vachement moins de doigts sur vachement moins de claviers. Et c'est probablement pas surprenant, puisque même la dénommée intelligence émotionnelle vante la maîtrise des émotions et s'intéresse finalement assez peu à leur compréhension. D'autre part, l'ère de l'urgence et de l'immédiateté pousserait plutôt à se la jouer Speedy Gonzalez de la gestion des émotions, car le temps est un truc dont on dispose en quantité limitée, et il doit être rentabilisé à fond. Du coup, on voit éclore des solutions qui ont les défauts de leur qualité et inversement. Ainsi, des techniques de gestion des émotions qui en modifient la perception ont vu le jour ces dernières années, qui proposent des solutions rapides. L'EFT ou la méthode Tipeee, par exemple, sont certainement à recommander pour des états émotionnels tenaces, déconnectés d'une situation précise, et des situations fantasmées de façon disproportionnée, des peurs irrationnelles, par exemple, des phobies, etc., ou des situations, des émotions trop génériques pour avoir un déclencheur précis sur lequel il est possible d'intervenir. Ou encore sur l'émotivité plutôt que sur l'émotion. Ainsi, par exemple, ma cliente Dorothée, qui a 42 ans et qui est terriblement angoissée à l'idée de ne pas trouver une voie de reconversion, pourrait certainement tirer un vrai bénéfice de ces techniques. En revanche, pour des émotions banales, ordinaires, les agacements et frustrations, les inquiétudes, les fatigues, liées à des situations spécifiques du quotidien, je préfère avoir recours à l'action concrète sur le déclencheur de l'émotion. Par exemple, être en colère parce que cet empaffé Dupont-Durand nous a encore coupé la parole en réunion est non seulement légitime, mais mérite d'agir pour éviter que la situation se reproduise. Choisir de supprimer l'émotion plutôt que la situation qui la déclenche, c'est prendre le risque d'accepter de devenir la serpillière du dit Dupont-Durand. Ça manque de gueule et ça n'aide pas l'estime de soi. Pour finir, une petite parenthèse sur les termes gérer et gestion que j'utilise là pour les émotions et qui ont connu, comme bien des choses, leur grandeur et décadence. Et aujourd'hui, on peut lire des tas de publications qui les rejettent. Alors, je choisis donc conserver le sens faire face à une situation ou administrer ses affaires conformément à l'intérêt de celui qui les possède, précise le Larousse. On peut préférer une autre sémantique, mais personnellement, je m'en fiche, gestion me convient et je n'ai pas particulièrement envie de débattre de ce mot-là, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que parfois certains choix lexicaux me chiffonnent. Aussi, je garde gérer et je vous propose de passer à la suite d'une lecture émotionnelle qui vise à déchiffrer les messages de nos émotions et en déduire les actions. Bref, reprenons. Et reprenons avec le journal des émotions. Mieux se connaître, mieux vivre avec ses émotions et être en mesure de les apprivoiser passe tout d'abord par l'observation de ses propres mécanismes émotionnels, les situations qui déclenchent des émotions pénibles et les manifestations physiques, physiologiques, comportementales, cognitives qui les accompagnent. Histoire en quelque sorte de tracer une cartographie de vos états émotionnels. Les trois étapes que nous avons vu ci-dessus, constitue la première partie d'une gestion des émotions et vont vous permettre de vous mettre vous-même sous votre microscope à émotions en notant régulièrement leur analyse. Après avoir suivi ces trois étapes, accueillir l'émotion, observer les ressentis et nommer l'émotion, vous pouvez analyser la situation qui l'a déclenchée. Déjà, de quelle émotion générique s'agit-il? Et dans cette situation, qui a fait quoi? Où, quand, comment, dans quelles circonstances. Notez toutes ces émotions, toute leur analyse, et au bout d'une semaine, comparez les circonstances des différentes situations ayant déclenché chaque catégorie d'émotions, celles que vous avez mises sous la colère, sous la peur, sous la tristesse. Qu'est-ce que vous remarquez? Quels sont les points communs entre ces situations? Et qu'est-ce que ça vous dit sur vous-même? Voilà pour la première partie. La partie observée de notre gestion des émotions. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et sont intéressés par la compréhension du message de l'émotion et son traitement du message bien entendu, l'émotion n'est pas une pathologie, c'est pas une maladie qui nécessite un traitement médical, c'est simplement un message à mettre en haut de la pile des affaires urgentes à traiter. Et rendez-vous dans la seconde partie de ce billet.